Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Bienvenue en Europe avec M. Michel Bourgès-Monoury. Alors, eh bien, au sommaire de cette édition de Bienvenue en Europe, un certain nombre d'anniversaires et puis quand même voir un peu ce qui se joue en Europe, tant sur l'Europe de la santé que sur le plan économique avec la relance, sur les mesures qui sont prises pour la vie commune européenne. Alors on va commencer par les bonnes nouvelles, si j'ose dire, et puis ce qui marche bien, enfin. Erasmus, allez.
Oui, Erasmus, c'est en juin 1987 que Erasmus a été lancé. Alors je ne vais pas revenir sur la manière dont tout ceci s'est passé, mais c'était un moment où j'étais à Bruxelles.
Oui, ça, je crois que vous étiez un peu l'artisan de ces projets avec d'autres.
Oui, avec d'autres, parce que là, mais c'était en tout cas un bon ami qui était commissaire européen à l'époque, espagnol, qui avait fait les mêmes études que moi. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, dans ces détails, mais qui a finalisé Erasmus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce projet est toujours d'actualité, mais qu'au départ, les États étaient contre. Et en particulier, le gouvernement français de l'époque, de M. Chirac.
Donc, je ne veux pas rentrer... Il était pour les nations, il était
alors,
beaucoup
bon,
plus...
Ben, c'était...
Voilà, alors, construisons l'Europe,
en tout cas, tout ceci a été mis en place... C'était pas facile et Jacques Delors a joué un rôle essentiel en retirant le point de l'ordre du jour des conseils des ministres. Et il y a eu un conseil européen spécial, conseil européen normal de l'époque, enfin on ne l'appelait pas encore conseil européen, mais qui était avec les chefs d'État, avec Madame Thatcher, et qui s'est tenu à Londres. Et Jacques Delors, là, avait réussi à obtenir l'accord d'un certain nombre d'États. Et devant tout le monde, il a réussi à faire passer la chose. Et avec, chose extraordinaire, l'appui de Madame Thatcher. Donc, autant cette dame était la fameuse dame de fer. Mais bon, il y a eu quand même des points positifs.
On peut dire quand même que par rapport aux Anglais, c'est vrai qu'ils ont été toujours exigeants. Que là, bon, ils partent, dommage, pour eux et pour nous. Mais c'est vrai aussi que... Il jouait le jeu, c'est-à-dire que quand une mesure était prise et qu'elle devait être appliquée, les Anglais l'appliquaient.
Tout à fait.
Et les décrets d'application n'attendaient pas quelques mois ou quelques années dans les tiroirs. Et ça, je crois quand même, on peut le dire. Ils étaient durs en négociation, mais respectueux des décisions prises.
Ça, je puis en témoigner pour l'avoir vécu personnellement dans un certain nombre d'événements qui sont passés à Bruxelles.
Et en tout cas, Erasmus a non seulement bien vécu, mais bien évolué parce qu'il concerne aussi... non seulement l'enseignement, enfin c'était les universités, mais aussi
et maintenant avec
les techniques, enfin tous les domaines.
Toute la formation professionnelle. Et à l'heure actuelle, il y a quelques 9 millions de personnes qui ont pu être, avec même des enseignants et tout ceci, 9 millions de personnes qui ont participé à ce jour à Erasmus. Donc ce fameux conseil à Londres s'est tenu en décembre 86. Et c'est en l'année suivante qu'il a été officialisé avec un budget propre. Je voudrais juste dire un mot sur Erasmus pour dire pourquoi Erasmus. Erasmus, c'est en fait...
c'est Erasme quand
c'était,
même.
C'était bien sûr, mais Erasme donc. Mais Erasme est un personnage formidable qui avait une vision européenne à une époque où c'était au XVe siècle complètement ahurissant d'avoir les idées qu'il avait. Et il avait une tolérance au niveau... de la religion au niveau du christianisme qui était tout à fait remarquable.
C'était aux Pays-Bas
exactement.
Il imprimait aux Pays-Bas parce que là il y avait la liberté d'imprimer.
Il avait la liberté. Mais et alors le nom d'Erasmus, pourquoi ce nom? Non seulement parce qu'il y a un côté symbolique, mais c'est un acronyme. Et Erasmus, c'est European Action Scheme for the Mobility of University Students. Donc si vous prenez toutes les lettres.
Ça, c'est intéressant,
ceci.
Ça, je ne savais pas.
Et donc,
c'était aussi un acronyme.
Voilà, c'est un acronyme. Donc, c'était pour la petite histoire, essayer de...
Mais rappelons aussi qu'au temps d'Erasmus, la vie européenne intellectuelle était importante et que les gens qui faisaient des études, ils passaient de Bologne à Amsterdam, à la Sorbonne. Enfin, je veux dire qu'il y avait quand même cette Europe de la culture et que, quelquefois, les traditionalistes qui disent qu'il faut retourner aux valeurs du passé, eh bien, les valeurs du passé, c'était justement d'être européen et d'être... d'aller faire, pour tout homme cultivé, d'aller faire ses classes ailleurs aussi.
Exactement. Alors, autre date anniversaire, c'est que le 10 juin 79, alors il se trouve que le 10 juin est précisément la date de notre enregistrement.
Voilà, nous enregistrons un 10 juin et c'est le jour d'anniversaire de... Alors, des élections...
La première élection au suffrage universel direct du Parlement européen. Donc, le 10 juin 1979, c'est important parce que jusque-là, c'était les parlements nationaux ou les États qui envoyaient qui voulaient, en quelque sorte, pour siéger...
Et dans certains cas, qui recyclaient les mauvais.
Qui recyclaient les mauvais. Ça n'a pas toujours changé sur ce plan-là. Bon, on ne va pas approfondir la question. Mais ceci étant, maintenant, il y a une élection libre. C'était sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Et la première présidente de ce Parlement nouvellement élu, ce qui est très important quand même au niveau de la démocratie européenne, dans le cadre de nos institutions européennes, eh bien c'était Simone Veil, également autre symbole tout à fait important.
C'est intéressant parce que souvent on parle du déficit, démocratique de l'Europe, et en fait, nous élisons les représentants au Parlement européen au suffrage universel. C'est quand même quelque chose que l'on peut rappeler à nos auditeurs, et surtout en leur disant... N'oubliez pas d'aller voter, c'est important la démocratie.
Tout à fait, et justement sur le plan européen, et c'est dommage qu'au niveau national, il y a, bon on le sait, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les questions européennes. Les médias, indépendamment d'une autre, restons modestes, mais quand même on le souligne, il y a peu d'émissions consacrées à l'Europe. La démocratie... Elle est au niveau européen, grâce à ce Parlement. Et ce Parlement européen, dont le siège est à Strasbourg, est un lieu où vraiment se vit la démocratie, et ce Parlement a beaucoup de pouvoir. Maintenant, toute la législation européenne, il faut avoir l'accord non seulement des États, mais également du Parlement européen. Alors, en ce qui concerne... Le fonctionnement institutionnel, on pourra y revenir, c'est pas... Ceci étant, il y a peut-être un lien à faire avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, que tout ça est lié, mais bon, on va pas...
Mais par contre, sur le Parlement européen et la démocratie, rappelons aux auditeurs que dans chaque domaine, lorsqu'il y a une législation qui est prise et des propositions, les gens qui s'estiment intéressés par cette question... peuvent intervenir et même, c'est quand même rare, parce que d'habitude, ce sont effectivement des lobbyistes qui vont voir les députés. Mais là, chacun peut dire, voilà à quel titre je m'exprime, sur cette question. Et ça, je crois que souvent, quand on parle de démocratie directe, la démocratie directe, elle existe d'une certaine manière auprès du Parlement européen.
Et là, pour les citoyens, à l'heure actuelle, il faut 1 million de signatures
dans
7 pays.
7 pays.
C'est quelque chose de très facile à obtenir quand c'est correctement organisé. C'est pas du 1 million, ça paraît énorme.
Oui, mais sur 500, très, enfin, sur
un total de 450 millions d'habitants,
oui. C'est ça quand va même, pouvoir se faire.
Alors, également, puisqu'on parle du Parlement,
la conférence.
On dit indépendamment également, c'est que c'est précisément ce qui concerne la démocratie parlementaire européenne, c'est ce mois-ci, mois de juin 2021, que depuis un an, le Parlement européen ne s'était pas réuni à Strasbourg et qu'il se réunit du fait des facilitations qui ont été dans
Covid, donc vous pouvez revenir à Strasbourg.
Alors, donc, voilà. Et donc, c'est un lieu symbolique, Strasbourg. On pourrait y consacrer une émission.
Et entre l'Allemagne et la France, il y a le pont de Kiel, c'est quand même important.
C'est une ville d'abord qui a un passé commun entre la France et l'Allemagne. On ne va pas y revenir, mais en plus, c'est une très belle ville. Le Parlement européen, honnêtement, si les auditeurs nous écoutent, s'ils veulent faire du tourisme, bien qu'ils aillent à Strasbourg et qu'ils aillent visiter ce Parlement européen qu'on peut visiter et qui est un bâtiment extraordinaire au bord du Rhin. ça vaut vraiment le déplacement.
Alors, au titre des culturels, c'est là aussi que se jouent les sessions Euroscola. Enfin, il y a toute une éducation à l'Europe qui se fait à Strasbourg. Alors, c'est vrai que, bon, ça nous fait faire cocorico un peu, parce que Strasbourg, c'est une ville française, mais c'est vrai que pour la facilité des affaires, reconnaissons que, quand il y avait un lieu unique, c'était peut-être plus efficace, non ?
Enfin, mais c'est toujours plus efficace, mais curieusement, il y a eu à l'origine, toutes les institutions auraient pu se tenir à Strasbourg, de la nouvelle Europe en construction, de la communauté européenne.
Oui.
Il y a eu, parce qu'il y avait déjà le Conseil de l'Europe
qui était à Strasbourg.
Et ce Conseil de l'Europe, évidemment, qui concerne beaucoup plus de pays que la communauté européenne d'origine, ce Conseil de l'Europe existe toujours. Et il y avait un Français qui le dirigeait, qui le présidait. Et quand Jean Monnet, Schuman, etc. ont décidé de lancer la communauté européenne du charbon et de l'acier, eh bien...
ils ont dit, ah oui, mais on ne veut pas mélanger les choses.
On ne veut pas mélanger. En plus, le président à l'époque Pierre Flimelin, qui était le maire de Strasbourg, qui était ministre du gouvernement de l'époque français, était en disant « Je peux accueillir toutes les institutions européennes ici à Strasbourg, parce qu'au départ, on voulait que tout soit à Strasbourg,
oui.
Précisément parce que c'était la paix, la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Donc c'était normal que ça se passe là, finalement. Les Allemands l'acceptaient très bien, et les Français, évidemment, aussi. Mais il a eu peur, lui-même, qu'on lui retire le Parlement de Strasbourg, parce qu'il avait peur. Du coup, il a préféré lâcher et ne pas défendre ça, si bien que pour préserver le Parlement à Strasbourg de la nouvelle entité européenne, il a préféré dire bah, « Écoutez, je ne suis pas contre que les autres institutions puissent se tenir ailleurs. » Et alors, il y a eu Luxembourg, qui a été la première place où tout s'est tenu, et Bruxelles. Et actuellement,
Fonctionne toujours comme ça.
Toujours comme ça, entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Étant entendu que les sessions plénières officielles du Parlement européen, d'après les traités, les 12 sessions annuelles doivent se tenir à Strasbourg. Mais donc, il y a un problème à la base, mais bon, c'est
la vérité. On fait du déménagement, voilà, puis voilà. Maintenant, les trains sont plus rapides.
Passons. Donc, on va passer, mais il y a quand même un côté symbolique. Et ce qui vous vouliez faire un lien avec la conférence
sur l'avenir de l'Europe,
chaque citoyen peut intervenir, eh bien, il y a certainement des possibilités pour chacun de dire ce qu'il voudrait dans le cadre de la future l'Europe de demain. On ne va pas revenir sur cette conférence.
Sauf que pour l'instant, on nous bassine beaucoup sur les régionales et sur les... Voilà. Et on oublie un peu la conférence sur l'avenir de l'Europe.
Voilà. Alors, on en a parlé lors de notre dernière émission. On peut aller sur des sites dédiés pour s'y inscrire, aller proposer quelque chose et voir qu'est-ce que nos collègues citoyens d'autres pays de l'Union européenne proposent, sachant que sur le plan institutionnel, ce n'est pas en tant que telle une rubrique dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, parce que les États sont encore, en tout cas certains, très méfiants de ce qui pourrait arriver de ce côté-là. Mais c'est à nous, citoyens, précisément, de prendre les choses en main et de dire, avec le Parlement européen, ce que nous voulons, c'est une vraie démocratie approfondie, encore plus approfondie au niveau européen.
Et une démocratie aussi qui a des aspects sociaux.
Avec des aspects sociaux. Et pour cela, il faut essayer de faire en sorte de faire sauter le veto actuel de l'unanimité entre 27 pays qui sont, sur le plan des populations, parfaitement inégales. Si on prend la population de Malte, qui fait, je crois, 700 000 habitants, eh bien,
ces 700 000 habitants peuvent bloquer
beaucoup de choses qui sont décidées, malheureusement, à l'unanimité, notamment en ce qui concerne les finances, le budget, évidemment, les impôts, on a vu la santé, etc. Donc, il y a tout le domaine régalien que l'on peut comprendre pourquoi il fallait au départ l'unanimité, mais cette unanimité n'est pas, d'abord, elle n'est pas dans les traités au départ, elle était détournée par le général de Gaulle. Malheureusement, pour sa mémoire, je suis au regret de dire que c'est un peu en raison de son attitude que les États ont repris en quelque sorte le pouvoir par rapport à ce qui était décidé au départ par Jean Monnet et Schuman, et si bien que de plus en plus les États ont repris en quelque sorte les choses en main et ont imposé une unanimité qui ne peut être que contourner très difficilement,
qui bloque quelquefois,
qui bloque en tout cas sur les sujets les plus importants. Donc là, il va falloir faire en sorte que on en arrive à quelque chose de plus
ouvert.
Donc
on peut faire un appel aux gens des jumelages, par exemple, de dire, eh bien, simplement, c'est pas simplement se rencontrer et bisounours, mais il y a peut-être un travail à faire au niveau des jumelages ou des rencontres européennes existantes déjà.
Et alors, à ce sujet, il y a des sites que nos auditeurs peuvent aller regarder, où il y a de très choses intéressantes sur
alors,
ce que l'on pourrait mettre.
Alors, donnez peut-être un exemple.
Alors, simplement pour dire, le site de Jacques Delors, l'Institut Jacques Delors, il suffit d'aller sur le site, on trouvera beaucoup de choses. On peut aller sur le site du mouvement européen, français.
Le mouvement européen, le site Robert Schuman.
L'Institut Robert Schuman, etc. Donc,
et puis on peut simplement mettre conférence sur l'avenir de l'Europe et vous trouvez plein de choses.
Et on pourra trouver plein de choses. Le site de toute l'Europe en particulier qui fait un résumé de l'ensemble. Donc on ne va pas revenir là-dessus, mais donc il y a un certain nombre d'anniversaires qu'on a vus, donc c'était important. Alors, il y a eu également, dans les événements qui viennent de se dérouler récemment, il y a eu un Conseil européen les 24 et 25 mai dernier. Bon, il y a eu évidemment l'affaire du Covid qui a été mise en avant, mais pour surtout dire que maintenant les choses vont un peu mieux, mais qu'il faut essayer d'aller plus vite pour débloquer la situation, et en particulier...
Et notamment sur le passeport de la santé, parce qu'un
certain
nombre
de pays sont
d'accord.
Alors justement,
ça fait suite... Et certains disent, ah non, parce que ça va gêner notre tourisme.
Il y a un passeport de la santé qui va à la suite de ça. Il y a un pass sanitaire qui devrait être introduit dès le 1er juillet au niveau européen pour faciliter
Les échanges, les
voyages. Les échanges entre pays. Alors, il y a une très belle étude, d'ailleurs, qui est faite par l'Institut Jacques Delors à ce sujet, qui explique tout ce qui peut se passer au niveau international et tout. Donc, je renvoie là aussi les auditeurs sur les sites spécialisés. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la Commission européenne a activé de manière très rapide tout ce qui pouvait être mis en œuvre en ce qui concerne la santé, sans même parler de tout ce qui s'est passé au niveau des vaccins. On a beaucoup critiqué l'Union européenne, mais c'est quand même grâce au fait que les États se sont rendus compte que s'ils y allaient tout seuls, chacun de leur côté, ils étaient perdants, et que s'ils se mettaient pour une fois vraiment autour de la table de manière unifiée, eh bien ça allait mieux marcher. Donc
alors,
ils ont chargé la Commission européenne de gérer tout ceci, et donc la Commission européenne, dans ce cadre-là, a lancé ce pass sanitaire. Il est en application déjà dans pas mal de pays. La France, etc., l'a mis en ligne. On peut déjà y accéder. Ça va se faire ce mois-ci. Et donc, le 1er juillet, tout devrait être réglé. Ensuite, il faut dire qu'en ce qui concerne la santé et tout ce qui rejoint indépendamment des points particuliers propres à la vaccination, il y a... qui est maintenant ouverte quasiment à tout le monde, dans tous nos pays membres. Il y a eu aussi, au niveau européen, du Parlement européen, le 8 juin exactement, l'accord sur la santé et sur le fait qu'on pouvait, au niveau des... parce que ceci est lié avec le plan de relance, on pouvait lancer... carrément l'ensemble du plan de relance qui maintenant est acté depuis le 31 mai au niveau des États, depuis le mois de juin, session plénière du Parlement européen. Donc tout cela est acté, et donc au niveau de la santé, au niveau du plan de relance, où il y a des milliards sur la table qui vont être débloqués pour que nos différents pays puissent en bénéficier, la France en particulier.
Moi, je crois que là, peut-être, il y a une précision à apporter. La santé, ça ne faisait pas partie de ce qui est européen. l'économie, il a fallu aussi le vote à l'unanimité. Donc on peut insister sur l'importance de la conférence sur l'avenir de l'Europe pour faire sauter justement ce verrou de l'unanimité. Parce qu'effectivement, il y a des pays, par exemple, sur le plan fiscal, qui disent eh « moi, ça m'intéresse tout à fait qu'il n'y ait pas de fiscalité sur les grandes entreprises multinationales parce qu'elles sont installées chez moi, parce que je suis un pays d'évasion fiscale ». Donc là, je crois qu'aussi, il est important pour les citoyens européens, pour chacun d'entre nous, sur le plan de la morale personnelle, de se dire « mais voyons, qu'est-ce qui est juste ?» Et ce qui est juste, c'est quand même de choisir le bien commun unanimement européen et non pas et faire en sorte que l'unanimité ne soit pas fait pour garder son petit privilège de la nation. Enfin, il me semble.
Et ceci nous renvoie aux valeurs fondamentales de l'Europe, qui ont été lancées par Robert Schuman en particulier, qui a mis en place le traité dont on a parlé tout à l'heure.
Mais parlons de lui.
Et justement, ce mois de juin, le Vatican va reconnaître officiellement Robert Schuman comme vénérable, sachant qu'il y a déjà plusieurs années que des démarches ont été entreprises pour reconnaître comme Robert Schuman, père de l'Europe, mais en quelque sorte, saint, on dit toujours la Saint Schuman, le 9 mai, qui est la date de son discours, ben, en quelque sorte, le Vatican, avec l'appui du pape François, essaie de pousser justement pour montrer que la dimension européenne, eh bien, c'est un exemple de la paix et de ce qu'il convient de faire. Non pas qu'il s'agisse de lier le politique à la religion, notamment dans un pays comme la France, où ces deux choses sont à mettre pas sur le même plan, du fait de la loi de 1905 sur la laïcité, mais en tout cas, il est absolument remarquable et quand même un cas très rare de voir un politicien qui a été engagé comme Robert Schuman, qui a, il faut dire, eu une vie remarquable sur le plan de sa foi. Il allait tous les jours à la messe, il priait du matin, le soir, il quittait son ministère avec des prières. Il était vraiment un homme très très engagé, c'est un homme absolument extraordinaire dont il faudrait relire la vie et les témoignages que l'on a sur sa manière d'être. Et ça, c'est en quelque sorte une reconnaissance, mais au niveau européen, vous vous rendez compte que le Vatican lui-même, un premier pas sur ceci, c'est plusieurs ont dit, c'est le Gandhi chrétien de l'Europe. Et il a été critiqué, on l'a traité de sale boche à l'époque par les Français, quand il était, parce qu'il était né allemand, forcément, du fait qu'en tant que...
Il était en Alsace-Lorraine.
Et bien c'était considéré comme, évidemment, à l'époque, quand ça avait été mis dans l'Empire allemand. Donc il a fait... C'est un homme absolument remarquable. Eh bien, lui a toujours gardé ce calme et ce côté, et cette simplicité. Il vivait d'une manière très simple. Il ne prenait jamais un chauffeur officiel. Il prenait les transports en commun. C'est un homme dont la vie est absolument remarquable.
Alors, je crois que c'est intéressant ce que vous dites pour la vie remarquable. Mais je crois aussi qu'on peut dire que la sainteté, c'est peut-être aussi de prendre des bonnes décisions qui servent tout le monde. Et ça, c'était quand même servir la paix en Europe alors qu'on sortait de quand même plusieurs décennies de guerre, fratricide, je crois que c'est quand même très important ça. Et que la valeur évangélique de la paix et de la construction des relations entre les hommes, d'abattre les murs qui sont entre les hommes, je trouve que c'est aussi évangélique que dire ses prières. Alors bon, moi je ne veux pas mesurer sainteté, mais je crois que...
on est sur une radio chrétienne, qu'on puisse souligner ça, je trouve qu'en plus une émission sur l'Europe, qu'on sur la paix. Alors évidemment, il faut se remettre... à l'époque, hein, on revenait et Schuman a eu cette vision avec Jean Monnet, qui l'a aidé évidemment à mettre le traité sur pied de charbon et de l'acier, en disant on ne peut plus recommencer À se battre français et allemand, et surtout il ne faut plus refaire de nouveaux traités comme celui de Versailles, autrement on est reparti pour un tour après. Donc là c'était très important, et je relisais encore il n'y a pas longtemps l'origine de la manière dont ça s'est passé, cette déclaration Schuman. C'est absolument extraordinaire, je ne vais pas rentrer quand même dans les détails, mais quand même dire que Schuman, il était non seulement un chrétien engagé, et il a compris qu'il fallait vraiment avoir une autre relation avec l'Allemagne. Et
c'était partagé par d'autres, d'ailleurs.
Partagé
aussi.
Par d'autres, évidemment. Oui. Mais la manière dont il a réussi à faire passer cette déclaration Schuman du 9 mai, c'est absolument époustouflant. Il n'avait même pas prévenu... il était ministre, mais il n'a pas prévenu le président du Conseil, qui était le chef du gouvernement. Adenauer, il a envoyé vite à un de ses membres de cabinet qui est arrivé parce qu'il voulait que tout ça reste secret chez Adenauer, qui était... Ce jour-là, en Conseil des ministres, c'était donc le 8 mai exactement qu'il a fait ça. Il a envoyé, il y avait un Conseil des ministres allemand avec Adenauer, le type qui était de son cabinet, qui connaissait bien, qui venait de Strasbourg, de Schuman, j'ai oublié son nom entre-temps, il est arrivé par surprise, il a toqué à la porte du Conseil des ministres allemand, et on lui a ouvert la porte. Adenauer a suspendu la séance pour aller voir, mais qu'est-ce que vous me voulez ? Il y a Schuman qui veut quelque chose. Il a dit oui, voilà, il veut faire la paix avec de nouvelles propositions. J'en suis même tout ému en parlant. Et alors, Adenauer, il en a donné un résumé, il dit oui, allez-y, foncez. Et le jour même, donc, il attendait ce coup de fil de son délégué français depuis Bonn. Schuman le reçoit en plein Conseil des ministres. Et puis là, il le dit ouvertement au Conseil des ministres, voilà ce qu'on me propose. Et il avait très peur parce que le Conseil des ministres français n'accepte pas ça. Et puis, heureusement, ça a été accepté, malgré un peu certaines réticences de Bidault qui présidait le gouvernement à l'époque. Et donc tout ceci s'est déclenché, puis ça a été fait. Et le lendemain, il y a eu cette déclaration officielle, le 9 mai.
Et que tous les enfants, les potaches dans les établissements
donc,
scolaires peuvent le lire.
On peut être fier de ce Robert Schuman.
Alors,
qui est sur la voie de la béatification.
Puisque là, on pose la question des valeurs de l'Europe, eh bien, on perçoit aussi que c'est quelque chose qui est très important et qui n'est pas simplement une question du passé, et donc des passés, mais que c'est une question d'actualité parce qu'on s'aperçoit, et notamment à l'occasion de l'examen des budgets affectés à Frontex, c'est-à-dire la structure qui veille aux frontières, on s'aperçoit qu'un certain nombre de pays, non seulement disent que l'argent de Frontex est mal utilisé parce que c'est peut-être une passoire, alors le problème, savoir est-ce que le fait de naître dans un pays riche fait qu'on peut y rester, garder ce privilège, et puis laisser à celui qui naît dans une île qui arrive bientôt sous la mer. Bon, voilà, je crois que là, il y a des questions. Mais il y a quand même des pays européens riches qui, actuellement, voudraient remettre en cause le droit d'asile. Donc là, il me semble qu'entre les valeurs défendues par l'Europe, parce que même, je ne sais pas, lorsqu'il s'est agi d'accueillir de nouveaux pays en Europe, on a exigé de ces nouveaux pays qu'ils s'attachent aux valeurs démocratiques. Et parmi les valeurs démocratiques, il y a quand même les droits de l'homme et le droit d'asile. Non, alors
tout
voilà,
à fait.
Je vous pose cette question.
Mais là, malheureusement, et c'est là où le blocage, on en parlait tout à l'heure, de l'unanimité au niveau des décisions européennes est un handicap, parce que des pays comme on a vu avec la Hongrie en particulier, ensuite la Pologne, qui ont
des pays
bloqué,
qui essaient de tirer à eux et oublient le bien commun.
Exactement.
Et alors,
surtout,
Frontex, c'est le Danemark, riche.
Et aussi oublient ce qui est écrit et qu'ils ont signé quand leurs pays ont rejoint l'Union européenne, dans les droits fondamentaux de l'Europe. C'est inscrit dedans, ils ne les respectent pas. Et donc il y a des procédures qui sont engagées à l'initiative de la Commission européenne contre ces pays en cas de difficulté, et ça va devant les tribunaux européens. Et dernièrement, un cas pitoyable, c'est le Danemark qui a pris une décision de ne plus accepter les migrants qui frapperaient à sa porte pour venir
au nom du droit d'asile.
Au nom du droit d'asile. Alors, il y a les un côté, il y a un côté hypocrite dans la mesure où ils disent non, on ne remet pas en cause le droit d'asile, mais au lieu de l'instruire dans notre pays, on refuse que quelqu'un vienne dans notre pays pour demander le droit d'asile. En revanche, on va se mettre d'accord avec un pays en Afrique, par exemple le Rwanda, où ils sont en négociation, pour dire ben, tous ceux qui veulent rentrer au Danemark pour, au titre du droit d'asile, ben, qu'ils aillent d'abord au Rwanda. Là, on va
y a examiner
leur droit. Les Rwandais qui vont examiner pour voir si, est-ce qu'ils ont le droit d'asile ou pas. Alors, je
Comme
voudrais
le temps
quand même
s'écoule
également
et qu'on
dire.
On n'a plus le temps de dire juste des choses. Concluons quand même sur l'importance de la défense des valeurs européennes.
Valeurs telles qu'elles ont été précisément mises en avant par Robert Schuman. Voilà.
Bonne semaine à tous et au revoir.